Alors, Annie, bonsoir. Avant de laisser place aux conférenciers, donc voici une lecture tirée de la Bhagavad Gita au chapitre 2. C'est donc l'instructeur Krishna qui enseigne à son disciple à propos donc de la mort et de la renaissance. Krishna, tu te lamentes pour des êtres sur lesquels il ne faudrait pas se lamenter. Et tes sentiments sont ceux des commentateurs de la lettre de la loi. Les sages versés dans les choses spirituelles ne se lamentent ni sur la mort, ni sur les morts, ni sur les vivants. Jamais il ne fut un temps où moi, ni toi, où tous ces princes de la terre cessâmes d'exister, et nous ne pourrons jamais cesser d'exister dans l'avenir. Ainsi que le Seigneur de ce dépouille mortel y éprouve tour à tour l'enfance, la jeunesse et la vieillesse, de même les éprouvera-t-il dans les incarnations futures. Celui qui est convaincu de cette vérité ne peut jamais être troublé quoi qu'il lui arrive. Les sens se dirigeant vers les objets qui leur sont appropriés sont les producteurs de la chaleur et du froid, du plaisir et de la douleur, effets qui se manifestent et disparaissent et sont brefs et changeants. Supporte-les, ô fils de Bharata, car le sage qui n'en est point dérangé et qui endure d'une âme égale les joies et les douleurs est prêt pour l'immortalité. Il ne peut y avoir d'existence pour ce qui n'existe pas, ni de non-existence pour ce qui existe. La caractéristique ultime de ces deux modalités est perçue par ceux qui voient la vérité et qui pénètrent les principes des choses. Sache que ce qui fit naître toute chose est incorruptible et que nul ne peut détruire cela, l'inépuisable. Il est dit que ces corps limités, enveloppant les âmes qui les habitent, sont à lui, l'éternel, indestructible et insondable esprit qui séjourne dans les corps. De même que l'homme se débarrasse de ses vêtements usés pour en revêtir de neufs, ainsi l'habitant du corps, ayant quitté ses vieilles enveloppes mortelles, en prend d'autres qui sont neuves. L'épée ne peut le diviser, ni le feu le brûler, ni l'eau le corrompre, ni le vent le dessécher, car il est indivisible, inconsumable, incorruptible et ne peut être desséché. Il est éternel, universel, permanent, immuable, invisible, inconcevable et inaltérable. Par conséquent, le sachant tel, tu ne devrais pas t'affliger. Mais si tu crois qu'il est de naissance et de durée éternelle, ou bien qu'il meurt avec le corps, jamais cependant tu n'as le droit de le pleurer. La mort est certaine pour toutes les choses qui sont nées. Et la renaissance est certaine pour tous les mortels. Par conséquent, il ne te sied guère de te lamenter sur l'inévitable. L'état prénatal des êtres est inconnu. L'état intermédiaire est évident, et on ne peut découvrir leur état après la mort. Y a-t-il de quoi là se lamenter? Certains considèrent comme une chose miraculeuse l'esprit incarné. D'autres en parlent et d'autres en entendent parler avec étonnement. Mais aucun ne le réalise, même après en avoir entendu la description. Cet esprit ne peut jamais être détruit dans l'enveloppe mortelle qu'il habite. Il est donc indigne de toi d'être troublé par tous ces mortels.
Alors, ami, mourir pour renaître, voilà un vaste sujet. Et depuis toujours, en fait, les hommes, eh bien, ont laissé des traces comme quoi ils croyaient à l'immortalité de l'homme. Pas l'immortalité du corps, bien sûr, puisque le corps est inévitablement appelé à mourir, mais à l'immortalité de l'âme, ou on peut l'appeler du nom que l'on veut. Mais toutes ces anciennes civilisations, eh bien, ont laissé des traces comme quoi ils croyaient à la survivance de quelque chose dans l'homme. Donc, ce qui va nous amener à parler de la réincarnation. Alors, pour la théosophie, la réincarnation est un passage obligé pour tous les êtres qui doivent mourir, renaître, vivre, mourir de nouveau, etc. Et en fait, la réincarnation, eh bien, est imposée par la loi de karma, qui est la loi de causalité. Et en effet, les êtres, eh bien, tissent des liens karmiques avec une multitude d'autres êtres, et toutes les pensées, toutes les actions sont des causes qui vont avoir des effets en interaction avec d'autres. Donc, l'homme est finalement obligé de se réincarner, déjà rien que pour solder tout ce karma accumulé de vie en vie. Donc, la réincarnation, n'existe qu'à travers sa doctrine jumelle, c'est-à-dire la loi de karma. Elles sont absolument indissociables. Alors, la réincarnation fait partie de la loi des cycles. La loi des cycles qui est une loi qui s'applique à tout le cosmos, c'est une loi universelle. Donc, elle s'applique absolument partout, jusqu'à l'échelle des mondes et jusqu'à l'échelle des galaxies, tout est soumis toujours à la loi du retour. Sur la Terre, on peut prendre un exemple tout simple, il y a énormément d'exemples, mais rien que les saisons nous montrent déjà la loi du retour sur Terre. Alors, cette loi du retour, ce n'est pas un cercle infini, mais c'est plutôt une spirale ascendante. Et en effet, on verra que ce n'est jamais un retour vraiment à l'identique. Rien ne sort jamais de nulle part. Que ce soit les formes physiques, les formes psychiques ou spirituelles, eh bien, elles se construisent toutes en fonction du passé. C'est donc, c'est toujours grâce à cette loi de causalité, à cette loi de karma. Karma qui est, on peut l'appeler aussi une grande pulsation d'harmonie, parce qu'elle entraîne inexorablement tous les êtres, tous les rayons que nous sommes d'un grand soleil spirituel, on prend souvent cette image en théosophie, elle les entraîne toutes dans une aspiration ascendante. Et puis, elle rétablit toujours l'équilibre qui a été perturbé généralement, tout simplement par l'égoïsme de l'homme. Alors, pour les règnes minéral, végétal et animal, tout se passe par impulsion naturelle. Mais pour l'homme, c'est différent. Grâce à des entités hautement spirituelles, qu'on appelle les pères spirituels de l'humanité, et qui ont été des hommes dans une humanité précédente, grâce à eux, à l'aube de l'humanité, ils ont, comme on pourrait dire, allumé la soi-conscience chez l'homme. Donc l'homme est soi-conscient, c'est-à-dire qu'il a le sens du je et il a le libre arbitre. Donc pour lui, la grande différence, c'est qu'il est responsable de sa destinée. Et donc son progrès, ne va pas se faire par des impulsions naturelles comme pour les autres règnes, mais il va se faire par des efforts auto-induits et auto-déterminés. Alors pour la théosophie, l'homme n'est pas un corps qui possède une âme, mais il est une âme en évolution, une conscience en évolution, qui va se parer successivement de corps différents à chaque incarnation. Et ça, pour lui permettre de faire une multitude d'expériences différentes et des expériences pour élargir de plus en plus sa conscience. La conscience dans le minéral, elle est presque inexistante. Dans le végétal, un petit peu plus, la fleur se tourne déjà vers le soleil. Dans l'animal, l'animal se déplace seul, il communique, il y a déjà une plus grande conscience. L'homme a la soi-conscience, mais il doit encore l'élargir Et puis, en fait, le but, eh bien, c'est d'arriver à, en pleine conscience, à retourner à sa source divine, ce grand soleil spirituel donc, dont nous sommes tous les rayons. Alors, eh bien, donc cet égo immortel qu'est l'homme, on peut le comparer, on le compare souvent à un acteur qui endosse un costume, c'est-à-dire le corps, et qui va jouer un rôle, donc la personnalité. Mais entre deux rôles, eh bien, l'acteur ne meurt pas, il se retire simplement le temps d'un long entracte. Par contre, le corps et la personnalité, c'est-à-dire le costume et le rôle, ne reviennent pas. Ça, le corps et la personnalité meurent. Mais on verra que quelque chose est conservé, c'est le suc de toutes les expériences élevées que l'homme a fait pendant sa vie. Le suc de ces expériences est conservé dans l'ego immortel et on verra qu'il va l'enrichir. Donc l'homme n'a pas à craindre de mourir puisqu'il est cet égo immortel. Et quand il revient à l'incarnation, eh bien, il va reprendre son chemin d'évolution, là où il l'avait laissé, et avec en plus l'acquis gagné de la précédente incarnation. Et eh bien en cela, la réincarnation nous donne confiance, puisque rien ne se perd, et on meurt, oui, effectivement, mais pour renaître et avoir ainsi le temps, tout le temps nécessaire, eh bien, pour progresser de vie en vie, progresser dans les perspectives qui sont infinies de la vie spirituelle. Mais avant de renaître, l'homme meurt et on va parler un petit peu de ce voyage posthume. Parce que Madame Blavatsky a parlé de ce voyage posthume d'une façon très profonde et très claire. Alors, lorsque la mort arrive, donc, eh bien, c'est le corps physique, c'est l'abandon du corps physique, mais il va y avoir un bilan de l'existence. Un bilan de l'existence sous forme de vision panoramique, où l'homme va comprendre absolument toutes les causes qui l'ont amené à vivre ce qu'il a vécu. Alors, pendant cette revue panoramique, eh bien, la conscience personnelle de l'homme va se fondre dans l'aura de cet égo immortel qui est omniscient. Alors, eh bien, cette revue panoramique, il n'y aura pas de jugement, pas de sentiment personnel. L'homme sera un peu comme un témoin de tout ce qui s'est passé. Mais par contre, il ressentira tous les sentiments qu'il a pu faire subir aux autres par ses actions et par ses paroles. Tout ce qu'il a suscité comme sentiment aux autres, il le ressentira. Alors, à ce moment-là, donc c'est la mort après cette revue panoramique, donc c'est vraiment la mort du corps physique, et c'est ce qu'on appelle la première mort. Et ensuite, la conscience personnelle va s'éteindre comme une bougie qu'on souffle, et là, ça va être une période de transition, une période qu'on appelle le Kamaloka. C'est une période où va s'opérer un tri dans la personnalité. C'est-à-dire que la nature, en fait, va garder tout le bon grain, tout ce qu'il y avait de plus spirituel chez l'homme, et va laisser dans la machinerie psychique, dont l'ego n'a plus besoin, eh bien, va laisser tout le côté animal de l'homme, c'est-à-dire tout l'égoïsme, l'orgueil, les désirs matériels, etc., la méchanceté, la passion. Et donc, il y a donc une séparation entre le côté spirituel de l'homme et cette machinerie psycho-astrale, ajoutée de toutes les mémoires de la personne qui vient de décéder, et de tout le rebut de sa personnalité, pourrait-on dire. Alors, on appelle aussi toute cette machinerie psycho-astrale avec toutes ces choses, on l'appelle la coque astrale. Et donc, elle est appelée à se désintégrer dans le temps, mais dans un temps plus ou moins long, tout dépend si l'homme était très très matériel ou plus spirituel. Alors, là, une fois que ce tri est fait dans la personnalité, ceci marque la deuxième mort. Et maintenant, l'ego est débarrassé de ce poids et va pouvoir continuer son voyage posthume. Alors, il va entrer dans une phase qu'on appelle le Devachan. Le Devachan, c'est un monde d'effets. Et donc, l'homme va revivre tous les idéaux qui ont été inspirés par l'amour, le beau, le juste, le vrai, le sens de la fraternité, la compassion, etc. Et enfin, il va revivre tous les rêves spirituels, tous les projets de qualité, toutes les aspirations élevées qu'il a pu avoir pendant sa vie et qui n'ont pas pu se réaliser. Alors, cette expérience peut durer extrêmement longtemps, des siècles, voire des millénaires, suivant le butin en fait spirituel de la personne. Mais bien sûr, le temps, il n'y a pas de temps dans cette sphère, c'est toujours comme un éternel présent. Hein. Alors, et il faut savoir aussi que c'est, Blavatsky nous dit que c'est une expérience de bonheur et de félicité absolument indescriptible. Mais ce n'est pas seulement une expérience de félicité, parce que, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, tout le suc de ce butin, va être enregistré en fait dans la racine profonde de l'ego immortel. Il va s'intégrer carrément à cet ego immortel. Donc, ça veut dire que le meilleur de toutes les personnalités qui ont été vécues par l'ego, est conservé et enrichit ainsi l'ego au fil des morts et des renaissances. Alors, quand l'ego a achevé d'intégrer, d'assimiler tout le suc de ses expériences, l'heure arrive où karma va le rappeler à l'incarnation. Donc l'essentiel a été conservé, mais il ne reste plus rien de l'ancienne personnalité. Alors, la théosophie nous dit qu'au moment où il renaît sur Terre, l'ego a une vision prospective de la vie qui l'attend, avec de nouveau la compréhension des causes qui vont l'amener à vivre ce qu'il a à vivre. Et la théosophie exclut totalement l'idée que ce soit l'ego qui choisisse tel type ou tel type d'incarnation. Non, c'est tout le poids de son karma passé qui va décider de cela. Alors, la réincarnation donc renvoie l'ego sur Terre avec un instrument physique adapté, bien sûr, et avec une machinerie psychique qui va être nécessaire à sa nouvelle personnalité, mais rien ne se fait au hasard, bien sûr, et ces instruments physiques et psychiques vont refléter en fait toutes les tendances de la dernière incarnation. C'est ce qu'on appelle les skandhas. Tant que l'homme ne se sera pas débarrassé de ses tendances, de son vivant, elles reviennent s'accrocher à lui, à la nouvelle incarnation. Alors, ce pèlerin immortel, donc cet ego immortel, va être en quelque sorte obligé par karma, s'il ne veut pas continuer à traîner ses scandales, de rectifier sa trajectoire. Alors, on voit qu'il ne s'agit pas de répétition sans fin du même genre d'incarnation, mais d'un genre d'incarnation eh bien, qui va nous obliger à nous transformer, qui va nous obliger à agir de plus en plus en harmonie, et cela avec les besoins profonds de notre ego immortel. À chaque incarnation, ça va être de plus en plus comme ça. Donc tout cela n'a rien à voir avec le hasard, ça répond à un vaste programme. La réincarnation donc renvoie sur terre cet ego, enrichi de toute la nourriture de l'incarnation passée qu'il a assimilée, et donc tout est là pour que cet ego puisse réussir, pour que la réussite vienne, mais bien sûr au prix d'efforts. Mais au prix d'efforts qui seront toujours à la portée du pèlerin. Alors, la réincarnation multiplie aussi énormément les chances de faire des expériences diverses, extrêmement diverses, et de vivre également des existences différentes, heureuses ou malheureuses. Tout dépend du karma que l'homme s'est fait avec ses actions et ses pensées des vies antérieures. Donc, il a des chances avec la réincarnation de faire donc des expériences de plus en plus diverses, et aussi de faire des rencontres et des échanges énormes avec le nombre d'êtres qu'il y a sur Terre. Donc, c'est ainsi que l'homme va pouvoir progresser, et cela jusqu'à la destinée divine qui lui est promise. L'homme a une destinée divine qui lui est promise. Par exemple, comme une graine, on plante une graine dans la terre et elle va devenir un arbre immense. C'est la promesse de la graine de devenir cet arbre. Eh bien nous avons en nous latent cette destinée divine qui nous est promise. Alors, mais par contre, rien n'est gratuit, et avec karma, l'homme va être tenu en quelque sorte de rendre des comptes. Hein. Donc la meilleure chose pour lui, ce serait de se mettre à l'écoute de la nature pour savoir ce qu'elle attend de lui, et puis devenir son allié. Alors, bien sûr, les hommes en général ne se préoccupent pas beaucoup des grands projets de la nature et de devenir l'allié de la nature, mais si on pense au fils prodigue de l'évangile de Jean, il a quitté son père en emmenant son héritage, et puis il a dilapidé son héritage, et ensuite il a essayé de survivre. C'est un petit peu notre cas aussi. Nous vivons, nous mourons, on ne sait pas très bien pourquoi, on essaye de survivre. On a aussi un peu dilapidé notre héritage, c'est-à-dire ces dons dont nous a doté la nature, mais qu'on ne fait pas fructifier parce qu'on n'essaye pas de se changer. Mais c'est à ce moment-là que le fils prodigue s'est souvenu de son père. Et nous, nous avons l'intuition aussi qu'il y a quelque chose de divin en nous. Nous avons le sens du beau, du vrai, du juste, l'amour des autres. Tout ça, ça provient de notre racine divine aussi. Alors, pour faire comme le fils prodigue qui est retourné vers son père, nous devrions essayer aussi, dans la mesure du possible, de retourner vers ce divin dont nous sommes issus, et on peut déjà essayer à notre niveau d'incarner l'homme vraiment humain au lieu de l'homme animal, et puis être conscient aussi des devoirs en tant qu'humain qui nous incombent. Et en effet, si la nature impose tant d'occasion de mourir pour renaître, peut-être qu'il faudrait aller au-delà de nos appréhensions de la mort et essayer d'en tirer des leçons. Et donc la théosophie nous invite à envisager notre vie eh bien, comme une contribution, comme une participation à la grande aventure de l'émancipation de l'humanité, carrément. Alors, les innombrables existences eh bien, vécues par un seul ego servent à élaborer eh bien, ce qu'on appelle le corps glorifié. C'est en sanskrit le dharmakaya du Bouddha parfait et qui va servir à ce qu'il entre, pleinement éveillé dans le nirvana en attendant eh bien, la naissance d'un nouvel univers. Et bien ça, c'est ce à quoi songent beaucoup d'orientaux. Ils voudraient cesser cette roue des incarnations, de réincarnation, pour entrer, pour trouver le salut, en fait, dans le nirvana. Pour la théosophie, non, il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de s'arrêter, au contraire, aux portes du nirvana. Elle prêche la voie du renoncement final au nirvana. Eh bien, pour revenir, quand on est allé aux portes du nirvana, pour revenir en tant que maître éveillé et puis aider l'humanité souffrante à trouver sa voie. Et la voie du silence, d'ailleurs, nous dit, c'est un très beau livre de Madame Blavatsky, c'est du bourgeon du renoncement au soi que jaillit le doux fruit de la libération finale. Elle nous dit aussi, aime les hommes comme s'ils étaient tes frères disciples, les disciples d'un même maître, les fils d'une même et tendre mère. Et elle nous dit encore, peut-il y avoir béatitude quand tout ce qui vit doit souffrir? Seras-tu sauvé et entendras-tu le monde entier gémir? Donc et bien ça c'est la voix du Bodhisattva des bouddhistes. C'est la voie qu'enseigne la doctrine du cœur du Bouddha et qu'enseigne également la Bhagavad Gita que l'on étudie ici. Et il y a aussi qui va dans le même sens ce très beau serment de Kuan Yin. Jamais je ne chercherai ni ne recevrai le salut privé individuel. Jamais je n'entrerai seul dans la paix finale. Mais toujours et partout, je vivrai et lutterai pour la rédemption de toutes les créatures dans le monde entier. Alors, on voit qu'avec la théosophie, même si karma n'impose plus la réincarnation, parce qu'il n'en a plus besoin, les grandes âmes, les mahatmas en sanskrit, soit continuent à se réincarner sur Terre par compassion pour l'humanité, pour aider l'humanité, soit reste dans les sphères pour aider aussi l'humanité, mais sur des plans qui sont invisibles à l'œil terrestre. Alors, si nous choisissons eh bien, de collaborer avec la nature, il faut savoir que nous ne sommes pas seuls. Il y a les maîtres de sagesse, il y a toute une chaîne de maîtres et de disciples qui existent, et il y a toujours quelqu'un qui en sait plus que nous et qui va pouvoir nous mettre sur la voie. Et d'ailleurs, de tout temps, eh bien, il y a eu des hommes qui savaient, des hommes qui connaissaient les secrets de la nature et toutes les forces invisibles, et qui pouvaient, soit s'ils étaient pris dans les filets de l'égoïsme, devenir des magiciens noirs, soit des sages et qui pouvaient conduire les hommes. Et en Égypte, par exemple, eh bien, certains hommes allait s'instruire auprès des sages et il lisait aussi tous les livres des morts pour être prêt eh bien, quand la pesée des âmes arriverait. Et au Moyen-Âge aussi, il y avait des livres sur l'art de mourir qui découlaient directement de l'art de bien vivre. Donc là, on reconnaît absolument la loi de karma. Dans les épîtres de Saint Paul, dont Madame Blavatsky disait que c'était un initié, eh bien, il est recommandé de mourir au vieil homme, de se dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Alors, pour un initié, eh bien, cette mort du vieil homme pour renaître à l'homme nouveau avait certainement une résonance, une dimension transcendante dans l'homme. C'est-à-dire, alors il faudrait pour le vieil homme se purifier, se débarrasser de tous ses défauts pour renaître, eh bien, dans le domaine spirituel, dans le domaine divin. Donc, non seulement il faudrait se faire à l'idée de mourir au sens propre pour renaître, eh bien, et faire de nouveaux progrès, ça dans le cadre de la réincarnation, de l'incarnation, mais il faudrait aussi, eh bien, comprendre que tous les changements profonds qui s'opèrent en nous et grâce auxquels nous pouvons évoluer, eh bien, exigent de mourir intérieurement à quelque chose, à des aspects caduques finalement de notre être, pour nous permettre d'accéder à des sphères beaucoup plus spirituelles et à des champs d'expérience quoi, plus spirituels. Alors, Platon disait « La mort se nourrit de la vie et la vie surgit de la mort inlassablement. » Et dans l'évangile de Saint Jean, il est dit « Si le grain tombé dans la terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Alors, ces paroles, eh bien, déclarent nettement la mort est la condition incontournable pour un vrai progrès. Ce sera une renaissance, en fait, avec beaucoup de fruits. C'est assez clair. Donc, il faut accepter de mourir pour vivre vraiment. Et dans ce cas, eh bien, mourir au vieil homme pour naître à l'homme nouveau relève de l'initiation. Et dans beaucoup de traditions, eh bien, il est fait allusion à l'initiation, à de nombreuses allusions à ça. Et c'est des initiations généralement pour franchir un passage. Par exemple, dans la tradition chamanique, il y a des initiations qui sont des épreuves très très dures, et l'homme après ça devient un chaman. Et il peut ensuite guérir, il a des pouvoirs, il peut prédire l'avenir, etc. Mais c'est au prix d'initiation vraiment très dur. En Inde aussi, il y a des rites de passage pour les jeunes gens. Et une fois qu'ils ont passé ces rites, on les appelle les deux fois nés. Donc on voit là encore l'idée de mourir à un état pour renaître à un autre. Et à travers le monde, eh bien, tous les rites initiatiques parlent de faire mourir l'homme à sa condition ordinaire, habituelle, pour accéder à la lumière divine, à quelque chose de divin, et cela par une métamorphose intérieure, toujours. Alors, on sait peu de choses vraiment de ces épreuves initiatiques, mais un narrateur égyptien a écrit, il est passé donc par des épreuves initiatiques, et il a écrit « J'ai été jusqu'aux frontières de la mort et de l'enfer. En pleine nuit, j'ai vu le soleil éblouissant. J'ai approché face à face les dieux d'en haut et les dieux d'en bas. » Il dit aussi « Dans l'acte d'initiation, il y a une mort volontaire, puis un salut où la puissance de la déesse Isis attire à elle et fait renaître. » Alors Isis, c'était la femme d'Osiris et c'était une déesse funéraire de l'Égypte antique. Donc dans ces épreuves initiatiques, on voit de nouveau une mort renaissance, mais là, quand c'est une épreuve initiatique, c'est évidemment guidé par déjà quelqu'un d'initié. Donc ce genre d'épreuve était bien sûr réservé au petit nombre, à ceux qui étaient prêts. Mais on peut faire le parallèle avec les expériences de mort imminente. Et en effet, ceux qui ont fait des NDE, donc des expériences de mort imminente, sont déjà considérés comme morts cliniquement par les médecins. Donc ils sont allés aux frontières de la mort, comme pour l'initiation. Ensuite, ils racontent quasiment tous qu'ils ont vu une lumière éblouissante, qu'ils appellent souvent l'être de lumière, qui était plein d'amour et de puissance. Là, ça nous fait vraiment penser au soleil en pleine nuit et à la puissance de la déesse Isis. Et puis finalement, eh bien, il y a un retour dans le corps, et généralement avec un changement notoire chez ces rescapés de la mort. Hein. La plupart changent leur façon de vivre parce qu'ils comprennent que l'essentiel, eh bien, c'est d'aimer et d'apprendre. Alors, encore une fois, pendant ces NDE, eh bien, il s'agit de mourir pour renaître et vivre différemment. Alors, après une expérience comme ça, une NDE, qui est une expérience de surconscience, eh bien, qui se passe en état de mort clinique, ne l'oublions pas, la plupart de ces gens ne peuvent plus avoir la même vie, le même genre de vie qu'ils avaient avant. Hein. Ils ont eu une compréhension généralement de la vie. Certains sont allés même jusqu'à l'omniscience. Ils ont eu vraiment une très forte compréhension de la vie. Et ça fait un profond changement en eux. Donc on voit le parallèle entre les NDE et l'initiation aussi. Alors, ces NDE sont une expérience extraordinaire, mais Madame Blavatsky nous dit que tous les êtres qui meurent, eh bien, vivent cette expérience. Bon, eux, sans revenir, mais ils vivent tous cette expérience. Alors, pour revenir à la réincarnation, la théosophie nous dit qu'une fois atteint le stade humain, eh bien, on ne se réincarne toujours qu'en humain. Il n'y a pas de retour en arrière possible, par exemple dans le règne animal. Mais rappelons aussi, parce que c'est important, eh bien, que derrière toutes les créatures que nous sommes, il y a cette grande pulsation, donc karma, cette grande pulsation profonde qui entraîne tous les êtres dans cette évolution ascendante, qui entraîne tout comme une marée. Nous sommes obligés d'évoluer avec karma. Et derrière donc toutes les créatures que nous sommes aussi, il y a cette même réalité unique dans laquelle nous sommes enracinés, notre racine profonde, et qui fait que nous sommes tous solidaires, même si nous n'en sommes pas du tout conscients. L'ego, donc, étant enraciné dans l'éternel, eh bien, cet ego est pour nous, notre ego intérieur est pour nous, le repère de permanence vers lequel on doit se tourner, parce que sinon tout le reste ne sont que des expériences passagères. Donc, il faut se tourner vers ce repère de permanence parce que il n'y a que là qu'on pourra trouver la vraie connaissance. Tout le reste, tout ce qu'on peut apprendre par cœur, etc., ce sont des connaissances que l'on perdra. Mais la vraie connaissance, on la trouve à l'intérieur. On mûrit petit à petit à l'intérieur. Et ça, c'est une connaissance qu'on va garder. Alors, bien sûr, tout ça est bien beau, mais la réalité est souvent tout autre. Et l'homme, au lieu d'incarner le divin en lui, de donner la suprématie au divin sur l'homme animal, c'est souvent le contraire. C'est l'homme animal qui est assis sur le trône et le divin qui est l'esclave. Et c'est tous les dons que nous ont donné la nature et tous les... Ce sont tous des pouvoirs latents dans l'homme, eh bien, tous ces pouvoirs sont souvent détournés pour le profit personnel de l'homme terrestre. L'intelligence, par exemple, qui est promise à l'omniscience, eh bien, est souvent utilisée juste pour la recherche du confort et pour le profit personnel. L'amour qui est appelé à la compassion universelle, eh bien, est souvent réduit au désir et au plaisir égoïste. La créativité qui devrait être au service de la planète, eh bien, sert souvent pour imaginer beaucoup de choses et même des armes redoutables. Donc, on voit que tout n'est pas... Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais heureusement, la nature, avec ses lois très justes, eh bien, ne se lasse jamais de nous donner des leçons et de donner à l'homme toutes ses chances de rectifier ses erreurs, d'essayer et d'essayer encore, jusqu'à ce qu'il apprenne enfin les leçons de ses erreurs. Alors, et c'est vrai que la douleur et la souffrance qui semblent vraiment poursuivre des êtres comme une fatalité presque, eh bien, si cette souffrance peut terrasser certains êtres, eh bien, elle peut aussi avoir des effets salutaires. Elle va faire mourir l'individu à beaucoup de choses, à beaucoup d'illusions de son moi personnel. Et si l'individu arrive à traverser l'épreuve et à renaître, eh bien, il va s'en trouver grandi, bien sûr. Il va être plus fort, il va être plus ouvert aux autres, il va être plus conscient des choses essentielles de la vie, donc il va être plus proche de son pôle divin. Et même dans des cas extrêmes, par exemple des prisonniers internés dans des conditions absolument atroces, où la mort plane en permanence au-dessus d'eux, eh bien, il est arrivé que ces êtres subissent une transformation totalement radicale, une transformation intérieure, où leur conscience accède à une paix et à une lumière qui paraîtrait totalement inconcevable à tout observateur extérieur. Mais il n'y a pas que la souffrance qui peut faire grandir. Le bonheur reçu comme un don et un présent de la vie peut aussi amener à tourner les regards vers ceux qui sont défavorisés et à vouloir aussi les aider. Et en définitive, eh bien, on dirait que la nature prête richement aux hommes. Et pourquoi ? Eh bien, dans le but qu'ils restent avec elle pour devenir ses auxiliaires, finalement, ses auxiliaires conscients. Et qu'ils prennent la relève, de tous les êtres plus élevés qui ensuite seront appelés à d'autres fonctions dans le cosmos. Parce que sans tous ces auxiliaires, eh bien, l'évolution ne serait pas possible. C'est important de tout se mettre en route. Alors, la nature ne fabrique pas de Dieu, effectivement, mais elle dote tous ses enfants pour qu'ils se rendent eux-mêmes divins. Et donc qu'il soit d'autant plus apte à la seconder, bien sûr. Donc nous sommes tous sur la voie d'une destinée divine, et en vue d'incarner le divin dans des personnalités successives qui vont être de plus en plus capables de rayonner ce divin sur la Terre. Alors, même si on ignore ce profond dessein de la nature, on peut se demander l'immortalité de conscience. Pourquoi faire ? Eh bien, pas juste déjà par fraternité, pour servir de guide à tous les autres pèlerins et puis les conduire avec sagesse et amour, bien sûr, vers cette même immortalité de conscience. Et pour finir, on peut dire que les innombrables êtres humains qui naissent, qui vivent, qui meurent pour renaître, tissent ensemble finalement l'image de l'homme cosmique qui sera le joyau à la fin de cette humanité. Et tout étant construit en fonction du passé, il servira aussi d'homme semence pour la prochaine humanité. Voilà.